Bon, ben, le débat n'est pas encore réglé. Les deux premiers ministres, M. Trudeau, M. Legault, invitent les Canadiens et les Québécois à ne pas voyager. Mais M. Legault aimerait que M. Trudeau, lui, annule, ferme les frontières. Et là, on ne sait pas où ça s'en va. Puis la semaine de relâche qui s'en vient, alors est-ce qu'on doit interdire ou pas les voyages que l'on qualifie de pas essentiels? Nathalie.
Bien, tout d'abord, Paul, j'ai pas souvenir qu'on ait parlé autant de la semaine de relâche. J'ai pas souvenir que la semaine de relâche ait autant fait jaser. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'on annule ou on maintient la semaine de relâche? Là, tu dis aujourd'hui, semaine de relâche et voyage. Et il y a des gens qui commencent à s'inquiéter, de la tentation qu'auraient certains parents, que pourraient avoir certains parents de quitter, de partir avec leurs enfants dans un tout inclus durant la semaine de relâche. Et ça fait dire à plusieurs, bien, il faut effectivement interdire les voyages pour éviter qu'on soit aux prises avec des cas de contamination encore plus importants. Moi, de ce côté-là, parce qu'on va parler de l'interdiction comme telle des voyages, mais moi, je crois que l'obligation de quarantaine, à elle seule, selon moi, va être suffisamment dissuasive auprès de certains parents qui seraient tentés de quitter. Parce qu'il ne faut pas oublier, tu pars dans le sud, au Mexique, dans un tout inclus avec tes deux enfants. Quand tu reviens, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te mettes en quarantaine puis que tu gardes les maisons, les enfants, c'est-à-dire 15 jours, à la 14 jours à la maison. Fait qu'est-ce qu'il y a des parents qui vont priver leurs enfants de 14 jours de classe après la relâche pour se faire chauffer les fesses au soleil pendant une semaine? Je sais pas, moi j'ai des doutes par rapport à ça. Et je me demande d'ailleurs si les agences de voyage vendent beaucoup de ce genre de forfait actuellement, là, j'en doute. Mais pour ce qui est de l'interdiction comme telle des voyages, tu l'as dit un peu plus tôt, Paul, le fédéral commence à branler dans le manche, c'est-à-dire que là, ils sont en réflexion. Mais au-delà de tout l'enjeu, lié à la semaine de relâche et tout ça, moi, je pense qu'il y a un éléphant dans la pièce, là, qu'on commence à voir, c'est le variant. Tu en as parlé un peu plus tôt avec le docteur Weiss, là. Le variant, selon moi, là, c'est l'argument massue qui devrait convaincre le gouvernement d'interdire les voyages non essentiels. Puis là, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire, ben là, Nathalie, il faut faire une distinction entre les snowbirds qui partent en Floride puis ceux qui s'en vont en tout inclus dans le sud pendant une semaine. Mais le nouveau variant, là, selon moi, c'est l'argument qui devrait convaincre le gouvernement de bouger, puis pas dans deux semaines, trois semaines, là. Maintenant.
Luc? Ah, je suis bien d'accord que c'est maintenant, parce que les voyages, là, ça s'achète pas au comptoir. Tu sais, je voudrais avoir 6 billets pour partir à Cuba, je vais prendre les tests de COVID en même temps. Non, ça se planifie à l'avance. Puis la planification, c'est maintenant. C'est maintenant qu'elle se passe. Alors, c'est pas pour rien que le débat a lieu maintenant. Et donc, le gouvernement Trudeau, ce qu'il essaie de faire, comme le dit Nathalie, je crois, c'est de faire appliquer de la rigueur sans appliquer de règles contraignantes. En se disant, l'obligation de tester puis l'obligation de quarantaine, ça devrait suffire. Moi, je recommanderais d'aller plus loin que ça. Pour te parler du variant, Nathalie, ben, hier aussi, il y avait une autre inquiétude importante, c'est que le service de sécurité publique français a annoncé prévoir une troisième vague qui commencerait d'ici 7 à 10 jours. Comment ils font ça? C'est les pompiers qui font des prélèvements dans les égouts régulièrement. Puis à date, ils ne se sont jamais trompés. Quand 7 jours avant qu'une vague augmente, la présence du virus est plus importante dans les égouts. Et c'est bizarre, hein? La science et la technologie, ça ne s'arrête pas, ça. Et là, ils ont prévu ça. Et à chaque fois qu'il y a eu une crise en Europe, une vague en Europe, nous autres, on a eu une vague de 10 à 15 jours plus tard. Alors, c'est pas le temps d'avoir une troisième vague. C'est pas le temps. On est en train de gagner, là. Les chiffres diminuent. Ils vont prendre autant de temps à diminuer qu'ils ont pris de temps à augmenter. Hein. Ils ont pris tout l'automne à augmenter. Ils vont prendre autant de mois pour diminuer. Mais ils diminuent. Maudite bonne nouvelle. Et le vaccin est en vue. Et malgré toutes les inquiétudes face au vaccin, il semblerait que ça fonctionne bien. Donc, c'est pas le temps d'avoir une troisième vague. C'est pas le temps d'étendre la fermeture des restaurants et des commerces, parce que là, ça va les tuer pour de bon. C'est pas le temps de... On est capable de prendre des mesures dures, mais qui vont nous amener au seuil d'une solution, puis d'un printemps, puis d'un été extraordinaire.
Mais je partage avec vous une donnée sur le nouveau variant britannique. Le 15 janvier, le variant britannique était présent là, dans 50 pays. 6 jours plus tard, le variant britannique était dans 60 pays. Imaginez avec la vitesse avec laquelle il se déplace, un. Deuxièmement, le New York Times hier... Non, il fait pas de stop, effectivement. Puis le New York Times hier référait à un nouveau variant qui est apparu en Californie. Imaginez-vous donc, la Californie aurait... développer son propre variant. Fait que ça, là, c'est comme... Écoute, je parlais d'éléphant dans la pièce, là. Il est minuit moins une. Puis tu parlais de la stratégie du gouvernement fédéral, lui, qui a quelques instants. C'est une stratégie du « on ménage la chèvre, le chou mm-hmm. ». Mais là, écoute, c'est, on n'est pas là. Fait que le gouvernement, bon, interdire les voyages non essentiels, ça me semble être une avenue qui est incontournable, selon moi, compte tenu de la dimension liée à la vitesse avec laquelle le nouveau variant se propage. Puis l'autre affaire aussi, je ne comprends pas, puis ça se fait dans plusieurs États, que les voyageurs qui partent, un effet dissuasif là, pour décourager. Si on ne veut pas interdire les voyages, là, bien, qu'on a juste à dire aux gens, mais quand vous allez revenir, vous allez vous installer dans une chambre d'hôtel à vos frais. Pour une famille, il semblerait que ça peut coûter jusqu'à 5 000 $ pendant 14 jours. Ça, je crois que ça va être très, très dissuasif.
Oui. T'as vu que c'est,
oui,
ce, qu'ils font, t'as vu que c'est ce qu'ils font en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis,
oui,
depuis le début.
Et
oui. En Nouvelle-Zélande, ils ont même mis une couche de contrainte de plus. C'est que tu dois, avant de revenir, tu dois réserver ta place parce que c'est pas tous les hôtels. Il y a 5 800 places en Nouvelle-Zélande pour ces chambres-là parce que ce sont des chambres surveillées. Ils mettent une surveillance en bas pour qu'il n'y ait pas de circulation. Et tu dois réserver ta place dans une de ces chambres-là avant de revenir. Or, il n'y a plus de place jusqu'au mois de mars. Donc, voilà. La capacité de voyager est très, très faible. Et ça, c'est une philosophie bien différente de la nôtre. La nôtre, ça a été de dire, on va doser nos mesures en fonction de la capacité de notre système de santé. Si notre système de santé n'est pas au maximum, on ne met pas des contraintes trop fortes. Puis s'il arrive au maximum, on met des contraintes fortes. Mais le virus n'arrête pas de nous jouer des tours. Tu parles des variants, c'est extrêmement important. Les vagues qui ont l'air de s'enchaîner les unes aux autres, ils nous jouent des tours. Et peut-être que notre stratégie est à réviser. Maintenant, un petit mot pour les voyageurs qui nous écoutent peut-être, puis qui se disent, arrête donc de frapper ces voyageurs. Finalement, il y avait seulement 2,5% des cas qui venaient des voyageurs. C'est pas la fin du monde. Commençons par s'occuper des écoles et des lieux de travail. Bien, il faut s'occuper de tout, ça c'est certain, vous avez raison, mais sur le 2,5%. Le 2,5%, il a été calculé sur un échantillon de seulement 23% des gens qui répondaient au téléphone. Et les gens qui répondent au téléphone pour dire « Est-ce que vous avez attrapé la COVID ailleurs puis est-ce que vous vous êtes confiné? » C'est pas certain qu'ils donnent une information totalement objective non plus. Je veux dire, c'est un sondage, cette affaire-là. Alors, moi, je fais l'hypothèse que bien des gens ont eu des symptômes, sont restés tranquilles chez eux, ils n'ont rien dit, mais s'ils avaient déclaré leurs symptômes, ça aurait beaucoup augmenté le petit 2,5%.
Ouais. Puis ajoute, Luc, à ça, le fait que le gouvernement fédéral n'est pas équipé pour s'assurer que les gens respectent leur quarantaine obligatoire. L'autre chose, je pense qu'il y a deux grands défis pour le gouvernement fédéral et aussi, mais mettons, parlons des voyages pour le gouvernement fédéral. Il y a un défi de cohérence, puis il y a un défi également de proactivité. Le premier défi de cohérence, c'est de dire, bon, ben par exemple, au Québec, il y a un couvre-feu. C'est Agnès Grouda qui écrivait ça dans la presse la semaine dernière. Tu sais, on a un couvre-feu à 20 heures, mais on peut partir dans le sud. Et puis surtout qu'on peut partir à la semaine de relâche. Il y a comme ça a comme pas ça, de bon sens. Là. C'est vraiment totalement illogique.
Mais c'est parce que, question technique, là, qu'est-ce qui est un vol ou un voyage essentiel? C'est-à-dire que, regarde, il y a des gens qui disaient empêcher la vente au Québec là, de forfaits vacances, par exemple. Là. OK, mais je vais aller sur un site web puis je vais en acheter un. Je gèle au sol les vols nolisés. OK, je prends un vol pour Toronto, puis je prends un autre vol pour ailleurs. C'est compliqué à gérer, pareil, là, tu sais.
Oui, il y a quand même des éléments de base qui sont faciles là, à filtrer. Là. Une famille entière avec des marsouins gonflables au comptoir, là, c'est sûr que... puis qu'ils s'en vont dans le sud. C'est pas pareil.
C'est assez évident.
C'est pas pareil qu'un ingénieur en agriculture qui s'en va en Mauritanie. Là. Tu sais, il y a quand même des limites. Mais c'est vrai que des nuances, ça oblige la gestion. Puis Trudeau veut pas mettre en place un appareil de gestion complexe. Et c'est ce qui fait que là, je revenais sur le point de Nathalie. T'as tellement raison, Nathalie. Si les gens hurlent leur vie, pour, par exemple, contre les voyages, c'est pas à cause du pourcentage, c'est la cohérence.
Non,
c'est cette idée-là de dire, moi, je me contrains, puis vous, vous vous contraignez pas.
Non, mais
moi, je fais des apports, puis vous, non.
Hier, j'ai fait une tribune là-dessus, là, et j'ai en mémoire le témoignage d'une auditrice qui m'appelait, je pense, c'était du Mexique, là, et qui a dit, écoutez, ici, il n'y a pas de problème, on est dans un endroit, les gens portent les masques, les mesures de santé publique sont respectées, on est testé. Et on a autant de chances de l'attraper ici qu'on l'a, puis peut-être même plus, si on retourne travailler au Québec. C'est-à-dire que les gens, là, c'est pas interdit, donc c'est permis. Puis c'est pas pire dans ces endroits-là qu'en plein milieu de travail ou dans un hôpital au Québec.
Oui, l'affaire,
ben c'est... Ben ça, je... Ouais, vas-y.
Vas-y, Nathalie.
Non, mais je comprends ça, ce genre d'argument, mais n'empêche qu'il y a, il y a quand même, tu l'as bien exprimé, Luc, tu l'as bien verbalisé, la frustration que vivent des gens dans le réseau de la santé, les gens qui font des sacrifices, de dire « eux, ils partent, puis nous, on reste ». Puis je trouve que l'argument de dire, puis je l'ai entendu, moi, j'ai un couple d'amis, entre autres, qui est en Floride, qui me dit « je me sens, un des deux m'a dit « je me sens plus en sécurité ici que là où je vis », c'est bien, mais je fais une différence entre les deux, parce que les gens qui partent, par exemple, en Floride pendant des mois et des mois, il me semble que eux font vraiment, vraiment, vraiment attention. Là. Puis mes amis en question, là, ils sont revenus, ils ont respecté la quarantaine. Tout était fait dans les règles de l'art. Mais je dis, si interdire les voyages, c'est trop difficile, bien qu'on impose la quarantaine à ce moment-là, obligatoire dans les hôtels.
D'autant plus, tu as dit que ça amènerait de la business aux hôtels. Les hôtels se meurent d'avoir du monde. Ben justement, ils vont en avoir. Puis ce sont ces clients-là qui vont payer. Et ce sera pas l'État. Ce serait une solution gagnant-gagnant pour tout le monde.
Ouais. Mais l'autre défi que je te permets, Luc, là, c'est parce que je parlais de défi de cohérence, mais selon moi, il y a un autre défi pour le gouvernement fédéral et les gouvernements en général dans le contexte pandémique actuel. C'est le défi de la proactivité. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se mettre en mode on voit venir plutôt qu'en mode on réagit? Et puis l'apparition, on le sait, le variant, là, je veux dire, il en parle partout sur la planète. Là, tu parlais de troisième vague, Luc, mais c'est probablement le nouveau variant qui va apporter la troisième vague. Alors, on sait ça. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut déjà se mettre en mode, tu sais, solution, puis dire, on prévient une crise qui pointe, une autre crise ou une troisième vague qui pointe à l'horizon, tu sais, c'est là, là. Alors, je me dis, en quelque part, il me semble que le gouvernement pourrait se mettre en mode plus, on appuie sur l'accélérateur que on regarde le train passer.
Très bien, on va faire la pause, si vous permettez. Puis au retour, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'on doit décriminaliser la possession de drogues plus dures? On sait que c'est le cas pour le cannabis. C'est non seulement décriminalisé, mais c'est légal. Mais il y a des groupes qui demandent justement qu'on puisse faire en sorte que des gens qui sont arrêtés en possession de drogues plus dures n'aient pas de dossier criminel. Véhicule en panne sur Descaries.